لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد فهذا اليوم هو 23 من شهر ربيع الأول عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو 18 في شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le samedi 1er décembre 2018 et l'on se réunit pour le 18e cours de l'étude du livre Al-Ubudiyya, la servitude de l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui accorde une large récompense et qu'il lui fasse miséricorde. Lors de la dernière assise, nous nous sommes arrêtés après avoir lu les paroles de l'imam rahimahullah concernant celui qui attache son cœur à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala au point d'en devenir dépendant, esclave, adorateur, comme on l'est pour Allah, wal'iyadu billah. Il nous explique que cela est le véritable emprisonnement. Il est possible de trouver des gens qui sont physiquement en liberté, mais qui en réalité sont intérieurement emprisonnés. Ils sont emprisonnés dans la prison de la passion, dans la prison de ce à quoi leur cœur se sont attachés. Et c'est une destruction pour le cœur. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous protéger de cela. Il a cité quelques exemples parmi lesquels l'homme qui s'attache fortement à son épouse. Et nous avions dit qu'il en est de même pour l'épouse qui s'attache fortement à son époux. Nous avions aussi dit qu'il ne s'agit pas ici de l'amour naturel permis, décrété par Allah subhanahu wa ta'ala entre les époux, mais plutôt de l'attachement au point de dépasser les limites et de baser sa colère ou sa satisfaction en fonction de la colère et de la satisfaction du bien-aimé. Au point où la personne ne regarde plus son but, son devoir envers Allah, mais plutôt ce que la créature à laquelle elle est attachée veut. Et c'est là qu'elle se détruit. Même si en apparence, cette personne a l'air de dominer l'autre, comme c'est le cas de l'époux par rapport à son épouse, qui à la base et en apparence a l'autorité sur cette épouse, si ce n'est qu'en réalité, intérieurement, il en est l'esclave. Il en est l'esclave dès lors qu'il a dépassé les limites de l'amour permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, nous l'avons déjà développé à la dernière assise. Après cela, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit « فَإِنَّ أَسْرَ الْقَلْبِ أَعْظَمُ مِنْ أَسْرِ الْبَدَنِ » L'emprisonnement du cœur est plus grave que l'emprisonnement du corps. واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. Le fait de rendre le cœur esclave est bien plus grand que de rendre le corps esclave. La personne qui, par exemple, est prise, est capturée, est emprisonnée et que l'on force à travailler, on la réduit à l'esclavage. C'est quelque chose. Mais réduire le cœur à l'esclavage pour un autre qu'Allah, Azza wa Jal, est pire que réduire le corps à l'esclavage pour un autre, pour une créature. فَإِنَّ مَنِ اسْتُعْبِدَ بَدَنُهُ وَاسْتُرِقَّ لَا يُبَالِي إِذَا كَانَ قَلْبُهُ مُسْتَرِيحًا مِنْ ذَلِكَ مُطْمَئِنَّ بَلْ يُمْكِنُهُ الْإِحْتِيَالُ فِي الْخَلَاصِ. Il nous explique que celui dont le corps a été capturé, emprisonné, réduit physiquement, en apparence, à l'esclavage, il n'accorde à cela aucune importance dès lors que son cœur est apaisé. Dès lors que son cœur est habité par la foi, il peut même en réalité trouver une solution pour fuir cet esclavage. Quelle est cette solution, nous dit le Cheikh Al-Fawzan? C'est le fait d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Saleh al-Fawzan nous dit « وَذَلِكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ لَا يَضُرُّهُ أَسْرُ الْبَدَنِ » Tant que la personne évoque le nom d'Allah et l'adore, son emprisonnement corporel et physique ne la nuit en rien. Car le cœur est libre, la poitrine est large, cette personne est épanouie. On ne peut donc rien faire contre une telle personne ayant atteint ce niveau de foi et d'attachement du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions d'ailleurs cité le cas de l'imam Ibn Taymiyyah lui-même, qui a été emprisonné de longues années, et pourtant il a vécu libre. Il est mort en prison, et pourtant il est mort libre, rahimahullah, au point où il a dit « Qu'est-ce que mes ennemis peuvent faire de moi ? Car s'ils me tuent, je tombe martyr. S'ils m'emprisonnent, ça me permettra de me recueillir avec mon Seigneur. Et s'il m'expulse du pays, ça sera une visite pour moi de la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Il dit, mon paradis est dans mon cœur. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle exactement de la servitude à Allah, subhanahu wa ta'ala. La servitude à Allah que tu développes dans ton cœur te donne un paradis. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a cité dans son livre Risalat ibn al-Qayyim ila ahad ikhwani, la lettre de Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères, la parole de son cheikh l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a dit: il y a dans ce bas monde un paradis, quiconque n'y entre pas n'entrera pas au paradis dans l'au-delà. Ce paradis là c'est le paradis de l'état du cœur avec les noms et les attributs d'Allah, la connaissance d'Allah, l'adoration d'Allah, la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur dit: وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقَلْبُ الَّذِي هُوَ الْمَلِكُ رَقِيقًا مُسْتَعْبَدًا مُتَيَّمًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهَذَا هُوَ الذُّلُّ وَالْأَسْرُ الْمَحْضُ. Il nous dit que le cœur qui à la base est le roi, le cœur est le conducteur dans le corps, c'est par le cœur que passent les envies, les désirs, les décisions, les soucis. Et toutes ces choses-là vont être suivies par le corps. En cela, le cœur est le roi du corps. Il est le guide, il est le conducteur. Ce que le cœur va contenir, le corps va l'appliquer. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna fil jasadi mudra » Il y a dans le corps un morceau de chair. « Idha salahat salah al jasadu kullu » Si ce morceau de chair est pieux, si ce morceau de chair est bon, tout le corps le sera. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Et si ce morceau de chair se pervertit, tout le corps se pervertira. Et ce morceau de chair est le cœur. Quand le cœur est bon, le corps va suivre. Quand le cœur est mauvais, le corps va suivre. Et là, tu vois la fausseté de la parole de ceux qui disent tout est dans le cœur, sans pour autant que l'on voit de ces mêmes gens des actes. Ces gens-là ne prient pas, ils disent tout est dans le cœur. Quand tu lui dis pourquoi est-ce que tu n'accomplis pas la prière, il te dit la prière est là. Quel menteur alors! Si la prière est là, comme tu le dis, en pointant ton cœur avec le doigt, pourquoi est-ce que le prophète Mohammed alayhi salat wa salam a prié jusqu'à sa mort? Pourquoi ne nous a-t-il pas enseigné que la prière est là comme toi tu le dis? Et la personne qui agit ainsi a en réalité un cœur malsain, un cœur malade, peut-être même un cœur mort, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, si le cœur qui est le roi devient esclave, rattaché à un autre qu'Allah, alors voici l'avilissement et l'emprisonnement dans toute sa réalité. Qu'est-ce que le vrai emprisonnement? Qu'est-ce que la vraie humiliation, le vrai avilissement? Que le cœur soit emprisonné dans l'attachement à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. فَهَذَا هُوَ الذُّلُّ وَالْأَسْرُ الْمَحْمُ وَالْعُبُودِيَّةُ لِمَا اسْتَعْبَدَ الْقَلْبِ وَعُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. Il dit, car la servitude va être développée en fonction de ce qui a fait, ce qui a rendu le cœur esclave. Qu'est-ce qui a rendu ton cœur esclave? Allah tabaraka wa ta'ala, l'adoration d'Allah, la satisfaction d'Allah, la recherche de ce qu'il y a auprès d'Allah. Si c'est cela qui a fait de ton cœur un esclave, alors pour cela tu auras une servitude. Tu deviendras le serviteur d'Allah, de celui vers lequel ton cœur a penché et est devenu esclave. Par contre, si c'est autre chose, alors c'est aussi une servitude que tu développeras dans ton cœur pour cette autre chose. Il nous dit ensuite, et la servitude du cœur ou son emprisonnement, le cœur est soit serviteur d'Allah, Azza wa Jal, soit emprisonné dans l'attachement à un autre que lui. C'est de ces deux choses-là, de la servitude du cœur ou de son emprisonnement, que découle la récompense ou la punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La récompense d'Allah, azza wa jal, ou la punition est rattachée à ce qu'il y a dans le cœur. Car c'est de ce qu'il y a dans le cœur que les actes vont découler. Pour nous éclairer cela, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. Certes, le musulman, s'il arrive qu'il soit emprisonné par un kafir ou rendu esclave par un fajir, un pervers, injustement, cela ne le nuira en rien dès lors qu'il accomplit les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir été emprisonné, d'avoir été retenu, ne te nuit en rien, car tout est dans le qalb, et on ne peut pas retenir, on ne peut pas te prendre ton cœur, te le retenir. Et toi, par contre, tu peux le diriger, tu peux l'attacher à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou à autre que lui, c'est à toi de choisir le serviteur. Mais si tu as dirigé ton cœur vers Allah, azza wa jal, alors on ne peut rien, on ne peut pas te nuire. On ne peut donc pas te nuire. C'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, lorsqu'il m'emprisonne, cela me permet de me recueillir avec mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّكَلُّمِ بِالْكُفْرِ فَتَكَلَّمَ بِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ. Il nous illustre cela en nous disant que si l'individu prononce une parole de mécréance sous la contrainte, sous la menace de mort, on lui demande d'abjurer, on lui demande, c'est-à-dire de renoncer à sa religion. Si on lui demande cela sous la contrainte, sous la menace de mort, tant que son cœur, lui, est apaisé dans sa foi, est rattaché à Allah, et il ne le fait que par crainte d'être tué, par exemple, il n'a aucun péché chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout est rattaché au cœur, comme l'a dit le cheikh, l'imam, rahimahullah. La récompense ou le châtiment sont deux choses rattachées au cœur. Cet individu a été poussé involontairement, injustement, il a été contraint, sous la menace de mort par exemple, à prononcer une parole, à insulter Allah, à renier à sa religion, à dire que sa religion est fausse. Comme ce fut le cas d'un des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui a tellement souffert et qui était sous la menace de mort, au point où il a prononcé la parole de mécréance. Mais il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car cette parole qu'il a prononcée l'a terrifié, l'a torturé dans son cœur. Et il lui a dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, j'ai dit telle et telle parole sous la contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment est-ce que tu as ressenti ton cœur au moment où tu as prononcé cette parole? Il a dit au messager d'Allah, mon cœur était apaisé par la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, s'ils reviennent, recommence. s'ils reviennent, reprononce cette parole. Car tu vas le faire sous la contrainte et tu n'as pas envie de dire cette parole. Ce n'est que pour éviter la mort que tu l'as dit et ton cœur est apaisé. En cela, tu n'es pas châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout tourne autour du cœur, comme nous dit le Cheikh Al-Fawzan. S'il arrive que l'homme prononce une parole de mécréance, de son propre gré, de son propre choix, nul doute que cette parole, cette personne, sort de l'islam. Car prononcer une parole de mécréance est un acte annulatif de la foi islamique. Mais si la personne est contrainte, et lorsque l'on dit contrainte, on parle de la menace de mort, si la personne est contrainte à prononcer une parole de mécréance, alors il lui est permis de le faire à condition que son cœur soit apaisé par la foi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Man kafara billahi min ba'di imanihi. Quiconque a mécru en Allah après avoir eu la foi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui a été contraint et dont le cœur est apaisé par la foi. Walakin man sharaha bil kufri sadra. Mais il s'agit plutôt de celui dont le cœur, dont la poitrine s'est épanouie à la mécréance. Il a prononcé la parole de mécréance, de son choix, il s'épanouit dans cela. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ces gens-là auront sur eux la colère d'Allah et un châtiment immense. Jusqu'à la fin des versets. Ensuite, l'imam, rahimahullah, dit: وَأَمَّا مَنِ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ فَصَارَ عَبْدًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهَذَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ. Quant à celui dont le cœur est devenu esclave d'un autre qu'Allah, cela le nuira fortement, même si en apparence il est le roi des gens. Même si en apparence non seulement il est libre, mais en plus de cela, il dirige les gens. Il est peut-être plus aisé qu'eux, plus connaisseur qu'eux, plus riche qu'eux, mais son cœur est rattaché à autre qu'Allah Azza wa Jal. Ce roi est en réalité un ridicule esclave. Mais malheureusement, il n'est pas l'esclave d'Allah. Il est l'esclave d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu vois ce genre de personnes, comme nous dit le Cheikh Al-Fawzan, craindre et espérer les gens, non pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui-ci s'est humilié devant les créatures. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite: فَالْحُرِّيَّةُ حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ وَالْعُبُودِيَّةُ عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ. La vraie liberté, c'est la liberté du cœur. La vraie servitude, c'est la servitude du cœur. Ça, c'est la compréhension de la liberté chez le musulman. Le musulman sait que la personne libre n'est pas la personne qui voyage, qui parcourt la terre, qui achète, vend, qui consomme, si cette personne n'est pas attachée à Allah. Le musulman a pour croyance que la personne libre, celui qui est véritablement libre, c'est celui qui est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté d'un des imams de l'islam qu'il a rencontré un homme juif. Cet homme juif connaissait une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. La vie d'ici-bas est la prison du croyant et le paradis du kafir. Si ce n'est que cet homme, cet individu qui était juif, était en apparence pauvre, besogneux, et cela se voyait dans ses vêtements, dans sa tenue. Alors que le savant parmi les musulmans avait une belle apparence et il était sur une monture. Il lui dit: « Ô toi, votre prophète dit que cette dunya est pour vous une prison. » Alaykoum salam. « Cette dunya est pour vous une prison et pour nous un paradis. Mais je ne vois pas cela quand je regarde ma situation et la tienne. » Qu'est-ce que lui a répondu cet imam? Il lui a dit: c'est normal, car si tu compares l'état dans lequel tu es maintenant, à ce qui t'attend le jour dernier si tu meurs dans cette croyance-là, tu verras que tu es dans un paradis. Et si moi je regarde ce qui m'attend, si je continue à obéir à Allah, je verrai qu'ici c'est une prison pour moi. Vous avez compris? La véritable prison, c'est d'attacher son cœur à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam rahimahullah nous dit, كما أن الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, la richesse n'est pas l'abondance de biens. La personne peut avoir de très grosses sommes d'argent. Elle peut posséder tout ce que l'homme recherche dans cette vie, mais la richesse n'est pas l'abondance de biens. La richesse, c'est la richesse de l'âme seulement, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux trouver quelqu'un qui possède de très grosses sommes d'argent. Tu peux trouver quelqu'un qui a construit, qui a investi, qui a acheté, qui a vendu, au point de ne plus savoir quoi faire de tout ce qu'il possède. Et pourtant, qu'est-ce que tu entends de beaucoup de ces gens-là? Ils deviennent alcooliques, ils se suicident, ils consomment les drogues, ils sont soucieux, ils sont tristes, ils vivent la difficulté, ils sont donc emprisonnés. Pourquoi? Parce que leurs cœurs ont été attachés à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs cœurs se sont rattachés aux passions de ce bas monde, leurs cœurs se sont rattachés à tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous parlait ici de l'image et l'exemple de l'homme qui est épris d'un amour passionnel pour une femme avec laquelle il est marié, n'est-ce pas? Et regardez l'état dans lequel il est. Lorsqu'il développe dans son cœur pour une personne ce que l'on ne doit développer que pour Allah, il se retrouve emprisonné. Il nous dit ensuite, وَهَذَا لَعَمْرِ إِذَا كَانَ قَدْ إِسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةٌ مُبَاحَةٌ فَأَمَّا مَنْ إِسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةٌ مُحَرَّمَةٌ إِمْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانُ فِيهِ. Nous parlions du cas de celui dont le cœur est attaché à une personne qui lui est permis, licite, son épouse. Il dit, quant à celui qui est dans ce même état, mais en plus de cela, avec une personne qui ne lui est pas licite, c'est donc c'est le châtiment qui n'a pas d'égal. La personne, et ça on le voit dans la vie de tous les jours, chez bon nombre de gens, qui s'attachent pour des hommes à des femmes, et pour des femmes à des hommes, au point de les voir faire des choses qui dépassent l'entendement, au point de les voir faire des choses que ces mêmes personnes ne pourraient jamais faire si elles n'étaient pas attachées à ces gens-là. Elles peuvent oublier complètement leur religion, elles peuvent changer de mode de vie, elles peuvent changer de façon de penser. Pourquoi? Pour s'adapter à la personne à laquelle elles se sont attachées. Et alors tu vois ces gens qui sont pris par des soucis. Lorsque tu regardes le visage de la personne, le visage te parle. Le visage te dit, je suis un cœur qui souffre. Le visage te dit, ma vie est pénible. C'est normal que la vie d'une telle personne est pénible si elle a rattaché son cœur à un autre qu'Allah. Et lorsque tu fouilles et tu recherches, tu vois que la personne est attachée à une personne comme elle, qui a été créée, qui est faible, qui va mourir comme elle, qui a des besoins comme elle. Mais pourquoi s'attacher à ce point-là? Pourquoi s'attacher à ce point-là, au point d'en devenir l'esclave? Cet attachement, nous dit l'auteur, rahimahullah, est un châtiment terrible, car la personne ne connaîtra que la gêne dans sa vie. C'est pour cette raison que tu vois que ce genre de personnes ne trouvent pas le sommeil. Et elles font la queue dans les pharmacies pour acheter les médicaments pour les aider à trouver le sommeil. Pourquoi? Le remède est dans le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas été créé pour attacher ton cœur à quelqu'un d'autre qui a été créé comme toi. Tu as été créé pour attacher ton cœur à celui qui t'a créé, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit: وَهَاُولَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ عَذَابًا وَأَقَلِّهِمْ ثَوَابًا. Et ces gens-là sont les gens les plus châtiés et les moins récompensés. Ceux qui ont rattaché leur cœur à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui, dans la manière de parler de la rue, sont tombés amoureux d'un amour passionnel, au point de faire de la personne qu'ils aiment le but essentiel de leur vie. Ils ne dorment pas sans la satisfaction de cette personne. Ils ne sortent pas sans la satisfaction de cette personne. Ils n'entrent pas chez eux sans la satisfaction de cette personne. Tous leurs soucis, toute leur vie tourne autour d'une personne. Ya subhanallah. Si ce n'est pas l'emprisonnement, qu'est-ce que l'emprisonnement alors? Ces gens-là sont les plus châtiés et les moins récompensés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dirigé leur cœur vers autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit: فَإِنَّ الْعَاشِقَ لِسُورَةٍ إِذَا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا مُسْتَعْبَدًا لَهَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا رَبُّ الْعِبَادِ. Subhanahu wa ta'ala. La personne qui aime une image, lorsque l'on dit une image, c'est-à-dire la personne qui est prise d'un amour passionnel pour une personne au point d'avoir son image, de garder son image toujours à l'esprit. La personne qui aime passionnellement une image et qui rattache à celle-ci son cœur au point d'en devenir l'esclave, cette personne va réunir en elle les différentes catégories de mal, les différentes catégories de perversion dont seul Allah connaît le nombre. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit: وَقَدْ إِسْتَشْرَى التَّعَلُّقُ بِالصُّوَرِ فِي وَقْتِنَا مِنْ خِلَالِ الصُّوَرِ الْفَاتِنَةِ الَّتِي تَعْرِضُ فِي الْجَرَائِدِ وَالْمَجَلَّاتِ وَالشَّاشَاتِ. Et dans cette époque que nous vivons, ces images se sont propagées à travers tous les nouveaux moyens de communication, de publicité, de transmission, tels que les journaux, les revues, les écrans, l'internet, la télé, toutes les célébrations de fêtes de mariage où hommes et femmes sont réunis et mélangés, où l'on trouve des femmes qui se sont embellies et qui sont alors des tentations et des troubles pour les hommes. Toutes ces choses-là sont des causes menant à avoir une image. Regardez comment ça commence. Au début, tu vois la personne croyante, musulmane, pratiquante. Cette personne accomplit cette prière. Mais elle ne prend pas garde aux différentes ruses de Shaitan. Elle se met alors à regarder. Elle se rend dans un endroit où elle va voir des femmes, si c'est un homme, des hommes, s'il s'agit d'une femme, le sexe opposé. Ou alors, elle va regarder dans les écrans. Ou alors avec son téléphone, ce grand malheur. Ou alors les revues, les journaux, les livres, et ainsi de suite. Que va-t-il se passer? Cette personne va, si elle ne prend pas garde, et elle ne demande pas la protection d'Allah Azza wa Jal, cette personne va minimiser le péché. Ça commence comme cela. Elle le trouve de moins en moins grave. Elle va alors s'accoutumer. Elle va prendre l'habitude. Lorsqu'elle va prendre l'habitude, elle va passer à l'étape supérieure. Elle va s'attacher à une image, à une personne. Ensuite, elle va peut-être fréquenter cette personne. Elle va l'aimer comme il ne faut pas. Elle va retarder ses prières pour cette personne. Elle va délaisser certaines actions. Elle va délaisser une prière. Elle va délaisser deux prières. Elle va arrêter de prier un jour et reprendre l'autre jour. Elle va arrêter de prier complètement. Elle va devenir l'esclave d'une personne. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jalla nous interdit de suivre les pas du diable. Et c'est pour cette raison aussi qu'il nous ordonne de baisser le regard. Car tout ce qui a amené à la fin à devenir le serviteur d'un autre qu'Allah, c'était un regard. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de baisser le regard. Et l'imam rahimahullah ta'ala nous dit « وَلَوْ سَلِمَا مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى » La personne rattachée à une image. Vous avez compris de quoi il s'agit, une image. Une personne, elle a son image en tête, dans le cœur, elle ne pense qu'à cette personne, va en devenir l'esclave et va réunir en elle les différentes catégories de maux et de perversions dont celle Allah connaît le nombre, quand bien même cette personne n'a pas commis l'acte en lui-même, qui est la fornication. Car il y a bien pire que le fait de commettre la fornication, qui est un acte gravissime, bien sûr. Il y a pire que cela. Avant cela, c'est le fait d'avoir attaché le cœur à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu trouves donc des personnes qui sont doublement châtiées. Elles sont châtiées car elles ont attaché leur cœur à autre qu'Allah, azza wa jalla. Et en plus, elles n'ont même pas commis l'acte. Elles souffrent parce qu'elles ont envie de commettre l'acte. Elles n'ont peut-être pas pu le faire. Parce qu'elles sont peut-être repoussées par la personne qu'elles aiment. Qu'elles aiment ou qu'elles aiment. Par les personnes qu'elles aiment. Et en plus de cela, elles souffrent d'avoir attaché leur cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de regarder le sexe opposé. Ce n'est pas pour rien, c'est pour préserver le cœur. Car il est rapporté an-nadratu sahmun min sihami iblis masmuma, que le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Iblis, les flèches du diable. Le regard est une flèche qui est lancée sur ton cœur. Ash-Shaytan cherche à atteindre ton cœur. Et pour cela, il a besoin de tes membres extérieurs. Et il y a des actions que tes membres extérieurs vont faire qui vont ouvrir la porte à Shaytan pour atteindre ce cœur. Et parmi ces actions, c'est le regard. Ensuite, l'imam rahimahullah ta'ala dit « فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين. L'auteur rahimahullah nous dit, le fait de rattacher, d'avoir le cœur continuellement et constamment attaché à cette image, donc à cette personne, sans avoir fait la fornication, est pire pour la personne que celui qui a commis l'acte, qui a fait le péché, mais qui s'en est repenti. C'est pire que, on parle ici d'une personne qui aime fortement une autre dans l'illicite. Cette personne ne lui est pas permise. Elle n'a pas commis l'action de la fornication. Le cas de cette personne est pire et plus grave que le cas d'une deuxième personne qui, elle, a commis la fornication, mais qui s'en est repentie. Pourquoi? Parce que le repentir efface l'effet du péché dans le cœur. Le péché brûle le cœur. Le péché détruit le cœur. Mais le repentir, le regret, le retour à Allah, la demande de pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, efface la faute. On se retrouve devant deux personnes, une qui a commis la fornication, une qui ne l'a pas commise. Et pourtant, la personne qui a commis la fornication n'a rien à voir avec celle qui ne l'a pas commise. Parce que celle qui a commis la fornication a demandé le pardon d'Allah, s'est repentie. L'effet grave du péché a disparu du cœur. Alors que l'autre, qui n'a pas forniqué, a toujours le cœur attaché à un autre qu'Allah. Et en cela, c'est gravissime. Pour cela, le poète a dit « Kamaqil sukrani sukru hawan wa sukru mudamatin wa mata ifaqatu man bihi sukrani » Un poète a dit « Il y a deux ivresses. L'ivresse de l'amour, de la passion, et l'ivresse de l'alcool. Mais quand va se réveiller celui qui est atteint des deux ivresses? Il est ivre par la boisson enivrante, mais il est aussi ivre par l'attachement du cœur à un autre qu'Allah. Et en cela, il est comme celui qui est ivre, car celui qui a consommé l'alcool et qui est sous l'effet de l'alcool, qui est l'ivresse, au point de ne plus savoir ce qu'il dit, ce qu'il fait, eh bien la personne qui a rattaché son cœur passionnellement à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est dans une situation d'ivresse. Au point où il t'arrive de dire à l'un ou à l'une de ces personnes, mais que t'arrive-t-il? Où est ta raison? Pourquoi agis-tu ainsi? Tu as l'impression que la personne a perdu la raison. C'est exactement de cela qu'il parle, et ça c'est une ivresse. L'autre a dit, waqil, qalu juninta biman tahwa faqultu lahum al-ishqu a'zamu mimma bil majanini al-ishqu la yastafiqu ad-dahr sahibuhu wa innama yusra'u al-majnun fi al-hin. Il fut dit, quelqu'un a dit, ils ont dit, des gens lui ont dit, tu es devenu fou, c'est-à-dire tellement tu es attaché à elle, tu es devenu fou de par ton attachement à elle. Je leur ai répondu, l'amour passionnel, c'est pire que ce qui atteint les gens devenus fous. Car l'amour passionnel, l'individu ne s'en réveille jamais. Alors que le fou n'est pris d'une crise que pendant un moment précis. La personne qui a des crises de folie, en dehors de ces crises, elle redevient normale. Lorsque ces crises reviennent, elle est sous l'effet de la crise. On lui a dit, tu es devenu fou de par ton attachement à elle. Il a dit, la folie, l'attachement qui m'a touché est pire que la folie dont tu parles. Tu m'as comparé avec quelque chose alors que je suis plus grave que cette chose-là. Car celui qui est fortement, qui aime passionnellement autre qu'Allah Azza wa Jalla ne se réveille pas de cet amour. Il est constamment ivre. Alors que celui qui est fou est sous l'effet de la crise, quand la crise vient à lui, mais quand la crise se dissipe, il redevient normal, il retrouve ses esprits. Regardez ce que va nous dire l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ إِعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنِ اللَّهِ. Parmi les plus grandes causes de cette calamité, le détournement du cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que beaucoup de gens vivent. Et c'est à cause de cela qu'ils sont atteints de cette calamité. C'est parce qu'ils ont détourné leur cœur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ne l'ont pas dirigé vers lui. Il nous dit ensuite, فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبُ. Lorsque le cœur goûte à la saveur de l'adoration d'Allah, de la sincérité pour lui, il ne trouve aucune autre chose que cela plus savoureuse, ni plus bonne. Quand le cœur a atteint ce goût, cette saveur de l'adoration d'Allah, de la sincérité d'Allah envers Allah Azza wa Jal, lorsque cela a pénétré le cœur, et par Allah, bon nombre de gens sont privés de cela. C'est pour cette raison que parfois on n'arrive pas à se lever pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cette raison que l'on ne retrouve pas le délice dans les adorations, d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pour cette raison que l'on penche vers cette vie d'ici-bas. Et lorsqu'il est dit à l'un d'entre nous, allons faire tel et tel parmi les actions de l'au-delà, tu vois beaucoup de gens qui sont lents, qui trouvent cela lourd, comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. La prière est très lourde, très pénible, sauf pour les gens humbles. Ceux qui n'ont pas goûté à la saveur de la foi, la prière c'est dur pour eux. Se sortir pour aller à la mosquée, c'est dur. Se déplacer pour aller écouter le rappel d'Allah, c'est lourd. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui sont capables de sortir, de se déplacer plus loin que l'endroit de la mosquée, plus loin que l'endroit de l'adoration. Pourquoi ? Pour aller chercher un bien mondain, pour une personne à laquelle ils sont attachés, pour une passion qu'ils suivent, pour toute autre chose qu'ils ont aimée. Et ça, c'est la perte et c'est la faillite. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ce grand mal, de ce grand trouble, car c'est à cause de cela que la personne n'arrive pas à faire du dhikr, n'arrive pas à invoquer Allah, n'arrive pas à demander, à réclamer Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a goûté à la sincérité pour Allah. Des gens nous disent, vous parlez trop de la sincérité. On a compris, la sincérité, ça veut dire œuvrer pour Allah. On voudrait parler d'autre chose. Ces gens-là n'ont rien compris. La sincérité, c'est toute la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. La sincérité, c'est de purifier ton cœur pour ne vouloir que la satisfaction d'Allah dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas dire. Et cela, tu en as besoin constamment. Tu as besoin de réviser ton intention, tu as besoin de revoir tes actions, de corriger tes paroles, de te remettre en question, de revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, sans jamais t'arrêter jusqu'au dernier souffle. L'imam rahimahullah ta'ala nous dit, وَالْإِنسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا إِلَّا بِمَحْبُوبٍ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ أَوْ خَوْفًا مِنْ مَكْرُوهٍ فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Il nous dit رحمه الله, l'homme ne délaisse ce qu'il aime que pour quelque chose qu'il aime plus encore, ou par crainte d'un mal. Lorsque tu délaisses quelque chose que tu aimes, tu ne vas le faire que parce que tu te diriges vers quelque chose d'autre que tu aimes plus encore. Lorsque tu délaisses le péché, la tentation qui se montre forte, il est fort possible que l'un d'entre nous soit éprouvé par une quelconque épreuve dans cette vie d'ici-bas, par un péché, par un goût de cette vie d'ici-bas. La personne peut être éprouvée par l'attirance envers une autre personne qui ne lui est pas licite, n'est-ce pas? C'est quelque chose que l'âme aime. L'âme se dirige vers cela. La personne peut être éprouvée par la consommation de ce qu'Allah a rendu interdit et l'aimer. La personne peut être éprouvée par la fréquentation de telle et telle personne et l'aimer, alors que ce sont des gens mauvais. La personne peut être éprouvée par la malhonnêteté pour l'acquisition des biens, etc., etc., etc. Et elle aime ces choses-là. Elle ne peut délaisser ces choses-là que pour autre chose qu'elle aime plus encore. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu délaisses quelque chose par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton cœur, tu auras mis l'amour pour Allah. Et cet amour va passer avant l'amour pour cette passion que tu as suivie. Et alors, ça te permettra de le délaisser. On ne délaisse une chose aimée que pour autre chose que l'on aime plus encore. Ou alors, par crainte d'être atteint de quelque chose que l'on redoute à cause de ce que l'on aime. Il nous dit, le mauvais amour, le fait d'avoir aimé quelque chose qui n'est pas bon, disparaît du cœur lorsqu'il est remplacé par l'amour pieux. Toutes les choses que tu aimes en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui peuvent être des péchés, des passions, des plaisirs de ce bas monde, des choses qui sont interdites par Allah, des personnes, le pouvoir et tout ce qui s'ensuit, toutes ces choses que tu aimes, tu dois les faire remplacer dans ton cœur par l'amour d'Allah Azza wa Jal, ou par la crainte d'une nuisance, une nuisance qui t'atteindra si tu succombes à cet amour. Car l'amour interdit par Allah Azza wa Jal fait découler une nuisance, une souffrance, wal'iyadu billah, terrible. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que lorsque la personne est attachée, a le cœur attaché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la personne a le cœur attaché à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, d'un attachement qui est interdit et d'une chose qui est interdite, elle souffre trois fois. Elle souffre pour atteindre cette chose-là. Vous n'avez qu'à regarder dans la vie de tous les jours. Les gens qui font de ces choses-là le but de leur vie, ils donnent tout dans leur vie, ils souffrent pour atteindre cette chose-là. Une fois qu'elle l'a atteint, elle souffre par peur de perdre cette chose-là. Et quand elle le perd, elle souffre parce qu'elle a perdu cette chose-là. Regardez l'amour par quoi il est entouré. Trois souffrances. La souffrance de la crainte de ne pas atteindre, une fois qu'on l'a atteint, la souffrance de la crainte de perdre, une fois que c'est perdu, car tout va se perdre, la souffrance de l'avoir perdu. Pourquoi ne pas alors rattacher son cœur à Allah uniquement? Subhanahu wa ta'ala, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, il n'y a d'autre remède à cet attachement et à cet amour passionnel, à ce suivi des passions, que le retour à Allah subhanahu wa ta'ala et l'attachement du cœur à lui. C'est ainsi qu'Allah guérit les cœurs. Donc là, il va maintenant nous parler du remède. Quel est le remède de tout cela? Comment est-ce qu'Allah guérit les cœurs de l'amour d'autre que lui, de l'attachement à autre que lui? Par le retour à lui. C'est ainsi seulement en se repentant à Allah, en revenant à lui, qu'Allah tabaraka wa ta'ala va guérir les cœurs et va enlever de ces derniers l'amour d'autre que lui pour y mettre l'amour à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et dans ces quelques lignes, il nous met en garde, rahimahullah, contre toutes les fitnas, toutes les tentations qui amènent justement à cela, parmi lesquels la fréquentation du sexe opposé, le regard du sexe opposé. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous ordonne de baisser le regard? Ce n'est pas pour rien. Allah nous a créés, il nous connaît, et il sait nos faiblesses, il sait nos forces, il nous connaît. Puisqu'il nous connaît, il nous trace un chemin, une voie à suivre, il nous donne des ordres dans notre intérêt, des interdits dans notre intérêt. Subhanahu wa ta'ala. Et tu trouves aujourd'hui des gens qui n'ont plus ni pudeur, ni fierté, ni honneur, au point de faire des choses dans ce sens qui ne sont pas dignes du croyant, l'adorateur d'Allah, Azza wa Jal. Puis il a cité le verset de l'histoire de Yusuf, alayhi salam. Qu'est-il arrivé à ce noble prophète, ce bel homme, le prophète Yusuf alayhi salam? Il a souffert longuement. La première épreuve qu'il a rencontrée fut celle de l'abandon de ses frères. Ses frères qui étaient pris de jalousie car ils voyaient que le père de Yusuf qui était Ya'qub, Yusuf est un prophète, son père Ya'qub est un prophète, le père de Ya'qub est Ishaq, c'est un prophète, le père de Ishaq est Ibrahim, alayhim salam jami'an, est un prophète aussi. Ya'qub était très attaché à Yusuf. Ses frères, pris de jalousie, ont décidé de ruser contre lui et l'ont abandonné dans un puits en laissant croire à son père qu'il a été mangé, dévoré par le loup. Et ils sont venus avec un liquide rouge en essayant de lui faire croire que c'est le sang de Yusuf. Le père a souffert. Il a dit, je ne me plains qu'à Allah.
je vais patienter, je vais endurer. Et il a invoqué Allah. Il a dit, je connais d'Allah ce que vous ne connaissez pas. Il connaît les noms d'Allah, il connaît les attributs d'Allah, il sait de quoi Allah est capable. Il connaît la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Youssouf ensuite a grandi. Il a grandi et il a été fait serviteur ou esclave du roi d'Égypte. Et son épouse était une femme riche et séduisante. Youssouf, quand il a atteint l'âge avancé, quand il a commencé à grandir et qu'il est devenu un homme, était un homme charmant, un homme très séduisant, qui n'avait pas de pareil dans la beauté. Cette femme a été prise de cet amour passionnel pour Youssouf, au point de le tenter de l'amener au péché. Elle a fermé les portes, elle s'est retrouvée dans une salle, seule à seule avec lui, et elle l'a appelé à désobéir, elle l'a appelé à pécher. Youssouf alayhi salam a refusé à cela. Elle a insisté. Il a dit, ma'ad Allah, qu'Allah me protège. Et il a pris la fuite. Et quand il a pris la fuite en direction de la porte, elle l'a rattrapé et lui a tiré par derrière son vêtement pour lui craquer et lui déchirer. Qui a ouvert la porte? Le roi, le mari de la femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, il a voulu me forcer à commettre l'acte. Et alors, une troisième épreuve va être rencontrée par Youssouf, c'est que le mari va l'emprisonner. Il a été abandonné dans le puits, il a été tenté dans la fornication, et maintenant il est emprisonné. Et à chaque fois, il est endurant. Il arrive dans la cellule, qu'est-ce qu'il fait? Il a avec lui deux co-détenus, il les appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il les appelle à l'adoration d'Allah seul, tabaraka wa ta'ala, et il est endurant. Et Allah, azza wa jal, a décrété des signes qui ont montré qu'en réalité, Youssouf était innocent. Et il a dit, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَى إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. C'est ainsi que nous avons éloigné de lui le mal et la turpitude. Certes, il faisait partie de nos serviteurs élus. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal l'a préservé du mal et de la turpitude? Lorsqu'il s'est montré serviteur d'Allah. Lorsqu'il a fait développer son cœur la servitude d'Allah Azza wa Jal, cette femme-là, aussi séduisante qu'elle soit, n'a pas réussi à l'amener au péché. Car dans le cœur de cet homme-là, il n'y avait rien d'autre que l'attachement à Allah Azza wa Jal. Et, comme nous a dit l'auteur, tu ne délaisses quelque chose d'aimer que pour quelque chose d'autre que tu aimes plus, ou par crainte du mal qui va découler de cette chose aimée. Ce fut le cas de Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam a délaissé cette chose qu'à la base, de manière naturelle, l'homme aime. L'homme aime cette chose-là. Mais il l'a délaissée parce qu'il aime Allah plus encore. Subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, elle a même avoué. Elle a même avoué que c'est elle qui a voulu amener Youssouf alayhi salam à ce mal. L'auteur rahimahullah dit, فَاللَّهُ يَصْرِفُ عَنْ عَبْدِهِ مَا يَسُوءُهُ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى السُّورَةِ وَالتَّعَلُّقِ بِهَا. Allah, Azza wa Jal, écarte son serviteur. Il écarte son serviteur de ce qui lui est nuisible et de ce vers quoi il penche et à quoi il s'attache. وَيَصْرِفُ عَنْهُ الْفَحْشَاءَ بِإِخْلَاصِهِ لِلَّهِ. Et il éloigne de lui, subhanahu wa ta'ala, il éloigne de lui la turpitude par sa sincérité envers Allah. Regarde l'importance de la sincérité envers Allah. Azza wa Jal. Tu n'arrives pas à délaisser des péchés? Réfléchis sur ta sincérité envers Allah. Tu n'arrives pas à te réformer? Fouille dans ta sincérité envers Allah. Tu n'arrives pas à adorer Allah comme il se doit? Recherche dans ta sincérité envers Allah. Tout vient d'ici. Lorsque la personne développe sa sincérité, la pureté de l'intention, le besoin de satisfaction d'Allah, Azza wa Jal, tout ce qui va arriver après va en découler, c'est l'adoration, la servitude pour Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit, وَلِهَذَا يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ حَلَاوَةَ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى اتِّبَاعِ هَوَاهَا. L'individu, avant de goûter à la saveur de la servitude pour Allah et de la sincérité pour lui. Il est souvent vaincu par son âme et le suivi de ses passions. فَإِذَا ذَاقَ طَعْمَ الْإِخْلَاصِ وَقَوِيَ فِي قَلْبِهِ انْقَهَرَ لَهُ هَوَاهُ بِلَا عِلَاجِ. Et dès qu'il goûte à la saveur de la sincérité envers Allah, et que cela se fortifie dans son cœur, ses passions deviennent complètement faibles et dominées sans rien faire d'autre. Subhanallah. Tu trouves des gens pendant de longues années qui commettent des grands péchés. Ils n'arrivent pas à s'en détacher. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décide de mettre la lumière de l'ikhlas dans leur cœur, la lumière de la foi dans leur cœur. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur revit complètement. Et tu vois cette personne, avec cette force, elle arrive à délaisser ce qu'elle n'arrivait pas à délaisser depuis de longues années. Pourquoi? Elle arrive à le délaisser facilement. Parce qu'il y a dans son cœur l'iman, la foi, la pureté de l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens consomment et ont consommé pendant de longues années la cigarette, ou alors l'alcool, ou alors les drogues, et tout ce qu'Allah a interdit. Ces personnes ont lutté pendant des années pour s'en séparer. Peut-être qu'elles ne l'ont pas réussi ou pas encore réussi. Mais dès qu'Allah tabaraka wa ta'ala met dans leur cœur l'iman, l'attachement à Allah, la peur de l'enfer, l'envie de rentrer au paradis, le sentiment du regard d'Allah sur elle, de l'observation d'Allah sur elle. Lorsque la personne met dans son cœur tout cela, lorsque la personne se rend compte qu'elle est le serviteur d'Allah, qu'elle a été créée pour adorer Allah Azza wa Jal, Wallahi, tu vois cette même personne qui n'a pas réussi à arrêter ce péché pendant tant d'années, s'en détacher avec la plus grande facilité. Pourquoi? Parce que comme nous dit l'imam rahimahullah, la passion qui est suivie et qui est dans le cœur, lorsque entre dans ce cœur la force de l'ikhlas, cette passion se fait dominer, elle se fait écraser sur place. Il n'y a pas de place pour elle. Qu'est-ce qui fait encore une fois tout le rôle? C'est la sincérité de ton cœur et la servitude de ton cœur envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que tu vois des gens que... Tu les vois revenir vers Allah et tu te dis, subhanallah, telle personne est revenue. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est cet effet-là. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, voulait tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était un ennemi de l'islam, un polythéiste. Il cherchait à assassiner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Dès qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a mis dans son cœur la foi, il a complètement changé. Il est devenu le deuxième meilleur homme sur terre après les prophètes. Un exemple pour la communauté. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Le changement du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran minh. » Quiconque abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui remplace par meilleur que cela. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans son livre Al-Fawa'id, il dit, à la base, il est très difficile de délaisser quelque chose auquel on s'est accoutumé, surtout quand il y a des longues années derrière. Sauf dans un cas. Il existe un cas unique où délaisser la chose devient facile. Quel est ce cas? C'est de délaisser cette chose à la recherche de la satisfaction d'Allah. Regarde encore une fois l'ikhlas. Fouille dans l'ikhlas. Remets à jour cette sincérité. Car dès qu'elle va être purifiée, tu vas réussir à délaisser, bi-ibnillah, et par l'autorisation d'Allah, des choses que peut-être tu avais du mal à délaisser. Il dit ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala te donne en échange différentes catégories de choses. Aujourd'hui, la personne dit, si je délaisse 1000 euros qui sont gagnés de manière illicite, Allah va me donner 1000 euros en halal. on les cite seulement. Alors que ça, ce n'est qu'une catégorie. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit « Al-iwadu anwa'a » La chose remplacée à plusieurs catégories. « Wa a'zamuha al-unsu billahi subhanahu wa ta'ala » Et la plus grande catégorie de ces choses-là, qu'ils te donnent à la place, c'est qu'ils mettent dans ton cœur la compagnie d'Allah. Tu as délaissé quelque chose. Peut-être qu'en apparent, tu n'as rien à la place. Mais à l'intérieur, Allah t'a remplacé ça par un sentiment de proximité avec Allah, qui par Allah, comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, si les rois savaient ce que c'était, ils nous combattraient avec leurs épées pour nous le prendre. Ils nous combattraient avec leurs épées pour nous l'enlever. Ça, c'est la richesse, encore une fois, du cœur et la liberté du cœur. Et dès lors que l'individu goûte à la saveur de la foi, ses passions sont vaincues et dominées par la force de sa sincérité envers Allah. Subhanahu wa ta'ala, Sheikh Al-Fawzan nous dit, فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُ قَلْبُهُ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Son cœur s'apaise avec Allah. فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى فِتْنَةٍ أو إلى مناظر سوء أو إلى لذة عاجلة وشهوة حاضرة وإنما ينظر إلى المستقبل والعواقب. Un tel individu, son cœur s'apaise avec Allah, se rattache à Allah. Il ne prête plus aucune attention à n'importe quel trouble, à n'importe quelle tentation. Il ne prête plus attention au regard interdit, aux délices éphémères, aux délices qui vont passer. Mais plutôt ce qu'il regarde, c'est l'avenir, c'est les effets néfastes, le résultat. Donc dès lors qu'il a rattaché son cœur à Allah tabaraka wa ta'ala, son regard va changer. Il ne regarde plus la chose à laquelle il est attiré, il regarde ce qui est caché derrière ça, qui est les résultats négatifs, destructeurs pour le cœur de la personne, pour cette vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Il regarde le manque de baraka dans sa vie. Il regarde le fait qu'Allah ne lui exaucera pas ses invocations. Il regarde le fait qu'Allah ne va pas l'aimer. Il regarde le fait qu'Allah ne va pas l'aider. Il regarde le châtiment d'Allah. Il oublie alors cette chose. Il se rend compte que cette tentation, en réalité, n'est rien du tout. Mais tout ça, c'est avec le travail dans ton cœur. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit « قال تعالى « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, la prière interdit, écarte du mal et de la turpitude, et de la turpitude. Wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah est plus grand encore. Et c'est ce que l'on va aborder, ou plutôt on va le faire tout de suite, inshallah ta'ala. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit tout d'abord dans le verset avant, « Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah » Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. Ensuite, il va décrire la prière. « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La prière écarte du mal et des turpitudes. « Wa la dhikrullahi akbar » Et le rappel d'Allah est plus grand. « Wallahu ya'lamu ma tasna'oun » Et Allah sait ce que vous faites. Subhanahu wa ta'ala. La prière est une énorme adoration d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. La prière a beaucoup de bénéfices. Elle a de grands intérêts. Ici, elle a deux aspects qui sont cités. Le premier, elle écarte du mal et de la turpitude. Celui qui accomplit la prière, celui qui fait, mes frères, la vraie prière, où il vénère Allah, subhanahu wa ta'ala, où son cœur est humble, recueilli, présent. Celui qui fait cette vraie prière et qui la fait de manière constante, celle dans laquelle il invoque Allah, il s'adresse à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas voir cette personne dans les turpitudes. Tu ne peux pas voir cette personne tomber dans les tentations, car cette prière le protège par la grâce d'Allah et l'en empêche. Tu vois alors cette personne se tenir droit dans le chemin d'Allah, car cette prière fait naître dans son cœur la crainte d'Allah et l'amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui ont laissé perdre cette prière, ils se sont perdus en réalité. Ils ont perdu leurs âmes. et ils suivent leur passion avec wal'iyadu billah. Pour cette raison, Allah nous a prescrit les cinq prières, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. La deuxième particularité de la prière, c'est que la prière est un rappel d'Allah. Car dans la prière, il y a les invocations, il y a la récitation du Coran, il y a la demande à Allah, Azza wa Jal. Ceux qui ont délaissé la prière, Allah Azza wa Jal les a cités dans le verset فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Leur succédèrent alors des gens qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se retrouvèrent dans l'égarement. Évident. Wal'iyadu billah. Qu'est-ce que l'on voit de ce verset? Celui qui délaisse la prière va suivre ses passions. Il n'a plus de protection. Comment alors dire la prière est dans le cœur alors que la personne ne prie pas? C'est vraiment un grand égarement et une grande ruse de shaitan. Et il se peut que la personne va se dire « Il est vrai que je ne prie pas, mais du point de vue moral et du comportement, je suis bien meilleur que tous ces gens qui prient et qui sont en réalité malhonnêtes, qui sont telle et telle chose. » Mais subhanallah, Allah Azza wa Jalla ne t'a pas demandé de te comparer aux gens. Allah t'a ordonné de prier. Allah va te juger le jour dernier, pas en fonction des gens, en fonction de ce que tu as fait ou n'as pas fait. C'est ça qu'Allah te demande. Subhanahu wa ta'ala, regardez comment le diable joue avec ces gens faibles d'esprit. La prière aide. Allah Azza wa Jalla a dit « Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salah » « Oh vous qui avez eu foi, aidez-vous de la prière, de l'endurance et de la prière. « Inna allaha ma'as sabirin » « Allah est avec les patients. » L'auteur rahimahullah dit « Fa'inna salata fiha daf'un lil makruh » وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله. Il y a dans la prière l'écartement, le repoussement de la chose redoutée, du mal, qui est la turpitude et le mal. Et il y a aussi le bien, le fait d'attirer le bien. Lorsque tu pries, tu repousses de ta personne le mal et tu lui attires le bien. Le bien, c'est le rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, le rappel qui est fait par le cœur, par les membres et la langue. Il nous dit ensuite, wa husulu hadha al-mahbubi akbar min daf' al-makruh. Et l'acquisition de ce bien dans la prière qui est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que le fait de repousser le mal, que sont les turpitudes et les péchés. Toutes ces choses-là sont des bonnes actions. Repousser le mal est une bonne action. Attirer sur toi le bien est aussi une bonne action. Et les bonnes actions sont différentes dans leur degré. Attirer le bien est plus grand encore que de repousser ce mal. فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عِبَادَةٌ لِلَّهِ. Le rappel d'Allah est une adoration pour Allah. وَعِبَادَةُ الْقَلْبِ لِلَّهِ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا. Et l'adoration du cœur pour Allah est quelque chose de recherché en soi-même. C'est un but recherché en soi-même. وَأَمَّنْ دِفَاعُ الشَّرِّ عَنْهُ فَهُوَ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِ. Quant au fait de repousser le mal, c'est quelque chose qui est recherché pour un but qui est autre. Lorsque tu adores Allah, l'adoration d'Allah en elle-même est recherchée en elle-même. C'est un but en soi-même. Alors que le fait de repousser le mal, c'est rechercher pour après adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, l'adoration, qui est ici le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la prière, est plus grand, car c'est le but dans la prière, que de repousser le mal. Car repousser le mal, c'est un moyen d'arriver au but. Le but est plus grand que le moyen. L'auteur rahimallah nous dit ensuite وَالْقَلْبُ خُلِقَ يُحِبُّ الْحَقَّ وَيُرِيدُهُ وَيَطْلُبُهُ. Le cœur à la base a été créé en aimant la vérité, en la recherchant et en la voulant. Ça c'est la base, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. À la base, lorsque l'homme naît, lorsqu'il est créé par Allah Azza wa Jal, il est prédisposé à aimer la vérité, à rechercher la vérité, à vouloir la vérité. C'est la base. Les passions sont des intrus dans le cœur. L'attachement à autre qu'Allah, les attachements aux passions, aux personnes, aux images, sont des intrus dans le cœur. فَلَمَّا عَرَضَتْ لَهُ إِرَادَةُ الشَّرِّ طَلَبَ دَفْعَ ذَلِكَ. Et lorsque l'envie de commettre le mal est arrivée en intrus, a voulu s'introduire dans le cœur qui à la base contenait la prime nature qui est l'amour d'Allah Azza wa Jal, le cœur recherche à combattre, à repousser ces intrus. فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْقَلْبَ كَمَا يَفْسُدُ الزَّرْعُ بِمَا يَنْبُتُ فِيهِ مِنَ الدَّغَلِ. Car le mal qui s'introduit dans le cœur et qui est intrus vient pervertir ce cœur comme les mauvaises herbes viennent pervertir les plantations. Il nous dit donc que le cœur à la base est sur la prime nature. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Kullu mauloudin yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né vient naître sur la nature saine que l'on appelle al-fitra. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mage, un adorateur du feu. Ce sont des exemples, et ça peut être autre chose, un athée, peu importe de quelle religion. Ce qui est voulu ici, c'est qu'à la base, quand l'homme naît, il est né sur le tawhid. Il est né sur la direction du cœur, l'attachement du cœur à Allah, vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, que va-t-il se passer? Des causes extérieures à cette base vont faire dévier ce cœur. Ces causes peuvent être notamment le parent qui n'est pas dans le tawhid et qui va donner une éducation déviante de ce tawhid à cet enfant. Donc c'est la mauvaise éducation qui notamment fait dévier le cœur de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison qu'il faut fuir les ambiguïtés et les péchés et qu'il faut écarter les enfants pour la personne qui a des enfants, des péchés. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il naît, il est sur la base. Il faut juste le préserver dans cette base. Il n'y a pas grand effort à faire en réalité. Afin qu'il ne se retrouve pas dans le cas de celui qui atteint l'âge avancé, qui commet des péchés et qui n'arrive plus à s'en séparer. Il faut juste le préserver. Faire attention à ce qu'il va fréquenter, à ce qu'il va regarder, à ce qu'il va écouter. Et c'est là que beaucoup de gens ont de grands manquements dans ce dépôt qu'Allah leur a confié, subhanahu wa ta'ala. Et alors le cœur se pervertit. Le cœur se pervertit par ces intrus qui sont arrivés, qui sont l'amour de ses péchés, comme les mauvaises herbes purifient la plantation. Si tu veux planter un arbre fruitier pour pouvoir en cueillir les fruits, il ne te suffit pas de planter cet arbre. Il faut l'examiner constamment, il faut l'arroser et il faut surtout lui enlever les mauvaises herbes. Car les mauvaises herbes vont venir lui manger ses racines. L'arbre va tomber malade, car un arbre tombe malade. L'arbre va tomber malade, l'arbre va mourir, l'arbre va peut-être être déraciné. Et c'est la même chose pour ton cœur. Ton cœur, il est né à la base, il sort de la terre, il est propre, il est pur. Des intrus vont arriver. L'amour pour un autre qu'Allah, les passions, shahawat, shubuhat, les tentations, les péchés. Tout cela, tu dois les combattre car ils sont des intrus. Et si tu ne les combats pas, ils vont te détruire ton cœur. Et s'ils détruisent ton cœur, plus ils détruisent ton cœur, plus cela va se montrer dans ton corps. On s'arrête ici pour cette séance et on reprend demain, inshallah. Allahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك